On va prendre la page 37, on est chapitre 6, Mishnah 5 de Baba Kama. Donc on a commencé à parler à partir de la quatrième Mishnah, d'accord, donc juste la page 36, on a commencé à parler des incendies. Les incendies, des dommages collatéraux qu'un incendie peut causer, et jusqu'à combien on peut être considéré responsable d'un incendie. Vous vous rappelez, on avait eu différents avis sur la responsabilité qu'on peut avoir sur un incendie. Il y avait des avis qui avaient limité la marge de responsabilité d'un incendie, même s'il est causé volontairement. Il y en avait qui avaient dit jusqu'à 50 mètres. Enfin, on avait fait des calculs la semaine dernière pour ceux qui étaient là. On a fait des calculs pour dire jusqu'à combien on peut aller, jusqu'à combien de mètres, jusqu'à combien de kilomètres, etc.
En mètre carré,
fallait être matheux la semaine dernière.
35 000, c'est bien.
Alors, mais la conclusion, voilà. C'est ça que je voulais arriver. La conclusion, c'était l'avis de Rabbi Shimon, qui dit que, puisque la Torah nous dit explicitement dans la Parasha Mishpatim que Shalem Yeshalem Amavir Atabera, que celui qui a causé un incendie devra rembourser l'incendie. L'incendie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit rembourser tous les dégâts qu'il a causés. Et s'il a brûlé une ville entière, ben il devra rembourser la ville. Il n'y a pas de limite. D'accord? À cette époque-là, pas encore. Non.
Bon père.
Mais ça a commencé. Il faut savoir que vous savez que l'assurance a été inventée par les juifs.
Bien sûr.
Les assurances étaient inventées par les commerçants juifs d'Alexandrie. Ah, c'est
raconté dans la Gemara, ça.
Parce qu'ils envoyaient beaucoup, il y avait beaucoup de monde qui partait en bateau. On savait qu'à peu près, il y avait, 3, 4, 5% qui revenaient pas. On savait qu'ils revenaient pas. Donc ils ont fait un fonds d'assurance. Et comme ça, tout le monde cotisait. Et dès qu'on mutualise, exactement. Ça, c'est raconté dans la Gemara, ça. Alexandria, Shemit Frame, c'est raconté. Bon. Alors maintenant, on est à la Mishnah 5. On est à la Mishnah 5, on parle toujours des incendies. Amadlik et Agadish. Donc, une personne a été la cause d'incendie. Donc, les incendies les plus classiques de l'époque, c'était quoi? C'était une meule de blé. Ah, c'était parce que ça brûle très très vite, ça prend feu très rapidement. Donc lui, il a mis le feu chez lui pour X ou Y raison. Quand on a donné différents exemples, on avait expliqué que même des fois, on est intéressé à faire brûler. On est intéressé à déclarer un feu, c'est pour nous.
C'est pas criminel dans tous les cas.
C'est pas criminel dans tous les cas, non. Personne n'a décidé pour X ou Y raison de brûler. Vayubo Kelim Vedalku. Alors, là, le problème, c'est quoi? C'est qu'apparemment, il ne va pas causer l'incendie chez lui, il va brûler ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Maintenant, lui, il a envie de brûler seulement la meule de blé. Il s'avère que dans ce gadis, dans cette meule de blé, il y avait également des ustensiles. Et donc lui, en d'autres termes, il va dire, moi j'étais prêt à prendre les risques pour moi de brûler la meule de blé, mais pas les ustensiles. Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il est responsable de ce qu'il y avait à l'intérieur ou pas? Alors d'abord, quand on dit les ustensiles, c'est d'après vous, de quels ustensiles on parle ici?
Ça peut être du matériel.
Des champs. Des
ça peut être le...
Alors, j'ai deux questions à vous poser. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est comme ustensile? Et deuxièmement, où sont ces ustensiles?
Ça fait du matériel dedans ou à côté la meule.
Bah, ça brûle, ça. Ça brûle, ça?
Oui, des manches.
Des manches en bois.
Bon, d'accord.
Ça peut être des économies planquées. Carrément.
Très bien, bon. Non, là, on parle de kélim. Alors, ils sont cachés où? Ils sont cachés où?
À l'intérieur.
À l'intérieur de quoi?
De la meule, qui était un gros truc comme un igloo.
Voilà, donc c'est comme... Donc vous avez... C'est un gros tas, et il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur.
Ouais.
Très bien. Donc, vayubo kélim vedalku. Alors, il faut savoir, ici, on parle de kélim, d'ustensile, mais il faut savoir qu'on avait des fois à l'époque même des gens qui se cachaient dans un endroit comme ça.
Bien sûr.
C'est énorme. C'est énorme, mais on peut respirer à l'intérieur. Oui. L'air passe.
Bon. Oui, la meule, c'est un truc en pierre là qui tourne, c'est ça une...
Non. Là, on parle du meule de blé. C'est un tas de blé.
Meule de meunier, ça.
Donc, ve'ayubo kelim ve'dalku. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, yeshalem mashe betoro. Il dit, attends, ça veut dire quoi? T'as mis le feu, tu payes ce qu'il y a à l'intérieur. Même s'il y avait des ustensiles à l'intérieur, et même s'il y avait des billets de banque. Et moi, je savais pas qu'il y avait des billets de banque. Ben, y a pas. Tu as brûlé, tu payes. Ça veut dire quoi? T'as pas demandé avant est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il n'y a pas ça? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Vachamim Omrim, Vachamim dit, Eino Meshalem, Ela, Gadish, Shalchitim, Oshel Seorim. Ils disent comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir que le Tosfot explique dans la Gemara. Il dit que c'est Gzera Takatou, c'est un décret de la Torah. Parce que logiquement, normalement, si je mets le feu chez quelqu'un, bah, je dois tout payer. L'autre, il a caché son argent dans sa meule. C'est ses affaires, c'est pas les miennes. Je veux dire, oui, mais il fallait pas. Oui, il fallait pas. Mais je t'ai rien demandé, je sais pas où mettre le feu. Alors, ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, tu payes ce qu'il y a. Chachamim disent non. Rabbim se base sur une xéra de la Torah, un décret de la Torah. La Torah nous dit que, quand la Torah nous parle de ce cas, d'une meule qui a été dévorée, elle nous dit « Vénéral gadish o akama ». D'accord ? La Torah là-bas explique le Rabbim, elle nous parle uniquement d'une chose qui est découverte. De là, on apprend que pour l'incendie, on est responsable seulement de ce qui est découvert, pas ce qui est caché. Et ce qui est caché, t'as pas vu, pas pris. Ah, ça a brûlé, ben j'ai pas vu, moi j'ai vu. Il se base sur un verset de la parasha Mishpatim.
Même le verset sur le verset, c'est comme ça aussi. Hein.
Qui dit que, Vénéral gadish o akama, d'accord ? Donc là-bas, la parasha nous parle de gadish, c'est la meule de blé, mais elle nous parle également de kama, c'est quoi kama ? Kama, c'est le blé lorsqu'il est encore attaché au sol, d'accord ? Ça veut dire lorsqu'il est découvert.
En premier.
Alors pourquoi on donne les deux exemples ? Quand tu me dis la meule ou bien le blé lorsqu'il est encore attaché au sol, c'est pour nous apprendre que la même manière que le blé qui est attaché au sol, ben, il est découvert, c'est visible. C'est pas, d'accord ? De la même manière, on est responsable uniquement sur ce qui se voit. D'accord ? Ça c'est la vie de Khamim. Alors par contre, ce qui est intéressant, ça c'est la Gemara qui explique aussi, c'est que même s'il ne remboursera pas les ustensiles, il remboursera l'emplacement des ustensiles. C'est-à-dire comme ça. Imaginez-vous que vous avez une meule de blé. Combien de tonnes on peut mettre dans une meule de blé ?
Pas des tonnes.
C'est grand.
Tonnes de quoi ?
De blé. De la paille, du blé, là.
Eh ben ouais, mais...
C'est du blé, là, attention, hein.
Oui, mais attends, non. Une meule, elle est avec le...
D'accord. Alors, combien ? Combien ? Allez-y, combien ? Combien ? Combien il va y avoir ? Je sais pas, 2 tonnes, 3 tonnes.
C'est pas aussi gros.
D'accord, alors on va dire plus petit. Une tonne ? C'est bon ? 500 kilos ?
Ouais, ça.
D'accord. Imaginons qu'à l'intérieur, j'ai caché des ustensiles.
J'ai aucune idée. Moi, pour moi, une meule, c'est les trucs au kilo. Je vois même pas.
Non, mais c'est du volume, il n'y a pas où aller.
C'est pas mécanisé à l'époque.
T'as jamais vu le fromage qui s'appelle meule d'or ?
Alors.
Ouais.
Non, pourquoi je veux quand même vous donner un indice, c'est que dans la Gemara on nous parle qu'il y avait des fois des gens qui se cachaient à l'intérieur. Donc c'est quand même conséquent.
C'est
devait être conséquent. Bon, on va dire allez, une tonne, allez, on va redire une tonne. C'est bon, une tonne.
Mais ça c'est pas une meule.
Disons que maintenant, j'ai caché à l'intérieur, un ustensile. Un ustensile. D'accord. Un ustensile. Non mais attendez. Un ustensile qui prend la place de 100 kilos. Mais il n'est pas visible. Donc, le feu, il prend l'ustensile. Maintenant, combien a brûlé ? 900 kilos. D'accord ? Écoutez bien les deux avis. Il y a l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, bon, ça a brûlé 900 kilos plus une meule en or, hein, je vous l'accorde. D'accord ? Donc, tu payes 900 kilos plus la meule, plus la pelle. Tu payes exactement ce que tu as brûlé. Rabbi me dit non. Rabbi me dit, celui qui a brûlé, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête quand il a brûlé ?
Il y avait mille.
Alors on le fait payer 1000.
Voilà,
pourtant il a brûlé que 900. Et les 100 kilos manquants, bah, c'était autre chose. Peu importe ce que c'était. Alors ça peut être en sa faveur et en sa défaveur. Ah oui, ça va dans les deux sens.
Oui, si les 100 kilos sont d'une valeur plus importante.
Si elles sont moins importantes. Si c'est pas nos affaires, ça tu comptes brûler, tu payes.
Que de la paille.
D'accord ?
Que du blé.
Tu payes. Donc c'est ce qu'il dit ici. Ouais. Vous voyez, ça c'est les mots de la Mishnah. Enom Meshalem et la Gadish El Chitim ou El Seorim. Il paye un Gadish. Un Gadish, ça veut dire, voilà, tu payes. Tu voulais brûler une tonne, tu payes une tonne. Ah, il n'y avait pas une tonne, c'est pas nos affaires.
Vous voulez pas spécialement brûler une tonne, ou alors il est un peu...
Non, ça veut dire, lui dans sa tête, il dit, je comptais brûler cette quantité. Le lot. Tu payes un lot. Peu importe ce qu'il y avait à l'intérieur. Aya, maintenant un deuxième cas de la Mishnah. Bon.
Excusez-moi, quand même, tout est aparté. Ça c'est avant battage, parce qu'il y a la paille pour nourrir ensuite les vaches, et il y a le grain de blé qui est dans la paille.
Ouais.
Donc ça vaut quand même, puisqu'on veut, dans une tonne, on va récupérer 100 kilos de blé et 900 kilos de paille pour nourrir le fourrage. D'accord ? Tout ça, ça vaut.
C'est vrai que ça passe pas très loin.
Il y a rien qui est perdu.
Il faut beaucoup. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Alors, on continue. Aya Gedi Kafutlo. Si maintenant, il y avait Gedi. Donc c'est quoi Gedi,
un agneau,
un chevreau, Kafutlo, qui était attaché. Il était attaché à la meule, donc il ne peut pas se sauver. Ve'evet Samuchlo. Il y avait aussi un esclave qui était à côté, mais, attention, ça complique un petit peu, l'esclave n'était pas attaché.
Oui.
D'accord. Ve'nisraf Imo. Et il a brûlé avec. Qui a brûlé ? Tout le monde a brûlé. La meule, l'agneau et l'esclave. L'esclave pouvait se sauver, mais il ne s'est pas sauvé. Peu importe la raison, peut-être qu'il voulait sauver. Peu importe pourquoi, mais il n'a pas sauvé. C'est quoi le din ? D'accord ? Chayav, il est chayav. C'est-à-dire quoi il est chayav ? Explique la Gemara. Il est chayav, il est responsable uniquement sur la meule, et sur l'animal. Ça veut dire parce que la meule, elle ne peut pas se sauver. D'accord, elle est stationnaire. Le chevreau, il peut se sauver. Enfin, l'agneau, il peut se sauver. Mais là, il ne peut pas se sauver parce qu'il est attaché. Le seul qui pouvait se sauver, c'est l'esclave. D'accord. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi on parle d'un esclave. Maintenant, il y a un deuxième cas. Evet kafutlo. Si c'est le contraire. C'est un esclave qui est attaché. Ougdi samouklo.
Bizarre, là. Hein,
ah, c'est un cas particulier. Regardez ce cas. Ça, c'est un vrai cas. Ah, c'est un cas que la Gemara passe longtemps à expliquer. Alors, je répète. Evet kafutlo. Vous avez donc un tas de blé. Vous avez à côté Evet, donc un esclave qui est attaché. Attaché, il peut pas se sauver.
Mais c'est quoi l'histoire d'attacher un esclave?
Il est attaché. On l'a puni. On l'a mis au cachot. Il est là-bas. D'accord? Ougdi samouklo. Ougdi samouklo. Et on a donc un agneau. D'accord? Samouklo ou une chèvre. Enfin, ça peut se faire de plusieurs manières. Samouklo qui est à côté, mais qui peut se sauver. Venis rafimo, et bien sûr, tout a brûlé. Fatour. Il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? D'accord? Alors, écoutez bien le chidouche de la Gemara. C'est un grand, grand chidouche. On a un principe que la Gemara appelle Kamle Biderabba Miné. Alors, retenez bien ces quatre mots parce que c'est des mots qui reviennent très souvent. Si un jour vous étudiez la Gemara Baba Kama, ça revient très souvent. Enfin, une phrase qui revient très souvent. Kamle Biderabba Miné. Je traduis, c'est en araméen. Ça veut dire Kamle, il faut lui accorder. D'accord, donc j'aurais dit plutôt lui affliger. Biderabba Miné, la plus grande, d'accord, celle qui est plus grande. De quoi on parle? On parle d'une personne, par exemple. D'accord, le classique, c'est dans le premier chapitre de la Gemara Baba Kama. On parle, le grand classique, c'est une personne qui rentre par effraction chez quelqu'un, fait des dégâts, il casse tout, il vole, d'accord. Et en sortant, il prend son couteau, il tue la personne, il tue le propriétaire de la maison. Donc théoriquement, il devrait tout rembourser. Il doit rembourser la maison, disons qu'il a de l'argent. Il doit rembourser la maison, il doit rembourser ce qu'il a volé. Et bien sûr, il doit avoir ce qu'il doit avoir pour le meurtre qu'il a fait. Alors, là, c'est quelque chose qu'on apprend de la paracha mishpatim qui nous dit que ça marche pas comme ça. Que quand on a un choix entre plusieurs peines, comme les bidéraba miné, on doit toujours prendre la plus grosse.
Mais elle va effacer les petites.
Donc, ça veut dire qu'il n'y
a pas de cumul.
Ça, il n'y a pas de cumul. On peut pas accumuler des peines. On prend toujours la plus grande.
On peut avoir 300 ans de prison. On a une
fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, puisque de toutes les façons il doit être mis à mort, d'accord? Donc on peut pas lui demander de l'argent.
Ouais, c'est pas normal pour les héritiers.
Les Américains ils rajoutent.
Les Américains ils peuvent vous faire, il est en prison pour 500 ans ou 80 vies.
Il y a une révision de procès, on lui enlève 10%.
Madoff,
quel pauvre.
Combien de temps ils ont mis? Non mais ils mettent des vies maintenant, carrément. Carrément, ils mettent des vies.
Il paraît qu'il a demandé une remise de peine de 50 ans.
De 30 ans.
Ouais,
ben ça va.
Parce qu'après il peut jouer avec ça, bon, enfin. Alors, vous verrez, il sortira avant de mourir, ne vous inquiétez pas. Hein, tout est... C'est impossible?
C'est possible.
Mais aux heures seulement.
De qui vous parlez?
Madoff.
De toute façon, il sortira.
Madone.
Venisraf, Imo, Patour, il est Patour. Donc, c'est quoi le dîner? C'est ce que je vous ai expliqué. Étant donné que de toutes les façons, il y a eu un homicide ici. Il a tué un esclave. D'accord? C'est pour ça qu'on dit l'esclave ici. Parce que on aurait pu s'imaginer que bon, un esclave, ça va, c'est pas grave. C'est une possession, c'est un bien. Donc, c'est pas grave si on l'a brûlé. Qu'est-ce qu'on lui dit? On dit non. Brûler un esclave, c'est un homicide. C'est la même chose. C'est comme si qu'il avait tué quelqu'un qui n'était pas esclave. C'est la même chose. Donc, étant donné qu'il y a eu homicide, donc il est responsable. C'est fini. Étant donné qu'il est responsable pour homicide, on ne peut plus lui accorder d'autres peines, c'est fini.
Mais involontaire.
D'accord? Ah non, là c'est volontaire là.
Ben non.
Ah si, c'est volontaire.
Si, il l'a tué en partant. Non, on parle de la meule de foin et de l'esclave dedans.
Non, c'est volontaire là. Ça, c'est volontaire. C'est clair que c'est volontaire là. C'est volontaire. D'accord?
C'est criminel donc. C'est Oumodim,
Rahamim. D'accord? Là. Maintenant, écoutez bien. Oumodim, Rahamim. Non, c'est. Là c'est volontaire là.
Tu parles de quoi là?
Je parle d'un cas, d'accord, vous avez une personne criminelle, il a envie de brûler jusqu'à chez son ami, d'accord, il brûle la meule de foin, et à côté il y avait un esclave qui pouvait pas se sauver. Donc il y a un homicide ici. Même si lui il savait pas qu'il y avait un esclave, c'est pas nécessaire.
Oui, mais donc c'est pas un meurtre.
Parce que l'esclave n'était pas caché, l'esclave était découvert. Donc c'est un homicide.
C'est un meurtre, mais c'est pas un assassinat.
Il a tué.
D'accord.
Ah, oui. Attendez, il met le feu et c'est un homicide, il a tué quelqu'un, il vient de tuer quelqu'un. C'est quand même quelqu'un qui roule très vite, il n'a pas vu quelqu'un dire, mais je savais pas qu'il allait avoir quelqu'un, mais il l'a tué, hein.
Oui, bien sûr.
En droit français,
c'est plutôt le fou qui doit s'étendre et atteindre l'esclave.
Oui.
Il ne doit pas être qu'est-ce qui
s'est à côté de mais vous imaginez, attendez, excusez-moi, attendez, je continue la logique, monsieur Bénichou. Imaginez-vous que j'accélère avec ma voiture. D'accord? Et qu'après je dis, c'est pas moi qui ai tué, c'est la voiture.
Non, c'est pas le cas.
Si, il savait qu'il y avait
quelque chose.
Excusez-moi, il savait qu'il y avait quelqu'un.
Pas forcément.
Ah, pas forcément.
Pas forcément.
Non, là, on est en train de dire, tu roules avec des pneus usés.
Non, j'ai dit que l'esclave était visible.
Allô, visible. Tu roules avec des pneus usés, t'as un pneu qui éclate à l'avant.
Il était caché derrière.
Tu perds le contrôle de ta voiture.
Tu perds le contrôle de la voiture parce qu'il y a un pneu, t'as roulé sur un clou. D'accord?
Ouais.
Alors, quelque part, tu as une responsabilité, puisque c'est toi qui t'en vois. Mais bon, à cause du clou, ta roue et le machin.
Non, ça n'a rien. Excusez-moi, l'exemple est mauvais. L'exemple n'est pas bon. Parce que, dans ce cas-là, je suis en train de mettre le feu. Je suis pas en train de rouler normalement avec ma voiture.
D'accord, mais tu es seulement rouler
là-bas. Ça veut dire que dans votre exemple, attendez. Dans votre exemple, vous aurez dû prendre une voiture qui n'a pas le contrôle technique, que le garagiste vous a dit elle va bientôt claquer, d'accord, ouais. Etc., etc. Et vous savez que vous êtes mis dans un état de risque. Et là, quand il y a un risque encore plus grand qui arrive, on dit ben écoute,
vous savez dans quoi c'est mis. Préméditation.
Bien sûr. Mais attention, c'est pas forcément qu'il savait qu'il y avait une personne.
Oui, mais il y avait une préméditation d'aller brûler.
Voilà.
Mais c'est pas la même chose avec l'eau. Si c'est pas où il y a une inondation,
oui.
Ça va pas être le même risque.
L'inondation, est-ce qu'elle était volontaire ou involontaire?
Ah oui, si tu veux par exemple noyer ton blé pour en faire une pâte.
Ah, a priori, c'est la même chose.
C'est la même chose.
C'est la même chose.
D'accord.
Là, on prend les exemples du feu parce que c'est les exemples qui sont racontés dans la Parasha Mishpatim. Et c'était les exemples les plus classiques à l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on ne maîtrisait pas les feux comme aujourd'hui.
Ouais. Mais aujourd'hui aussi.
Hein,
certains pays.
Bon. Non mais il faut le savoir ça. L'Agmara nous raconte, d'accord, qu'on a eu comme ça des villages, des villes entières qui ont brûlé, et une qui brûle l'autre, c'est impossible d'arrêter.
Parce qu'il y avait des maisons en bois.
Bien sûr. Il faut savoir ça. Alors, justement, puisque je parle de... Umodim Rachamim le Rabbi Yehuda. Rachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc c'est quoi la marque entre Rachamim et Rabbi Yehuda? Rappelez-vous. La marloquette sur Rabbi Yehuda, c'est que Rabbi Yehuda, il dit, on paye toujours ce qu'on a brûlé. Et Rabbi Yehuda dit, non, on paye pas ce qu'on a brûlé, on paye ce qu'on voulait brûler. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yehuda. Donc, voilà, on avait donné l'exemple. Rabbi Yehuda dit, on paye une tonne. Rabbi Yehuda dit, non, tu payes 900 kilos plus ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord. Rabbi Yehuda seront d'accord avec Rabbi Yehuda. Ça veut dire qu'ils seront d'accord qu'on paye ce qu'il y avait à l'intérieur. Bemadlik et Abira. Lorsqu'une personne met le feu à la maison de son ami, après il va dire, ah...
C'est criminel.
Ah, attendez. Non, mais c'est quoi le piège, là? C'est qu'il met le feu à la maison de son ami, après son ami va lui dire, mais tu sais, je sais que chez moi, j'avais de l'argent, j'avais des cadres, j'avais des choses, des bijoux, d'accord? Il dit, ah, moi, je savais pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi, je savais pas. Moi, j'ai brûlé une maison. Pour moi, elle était vide. Ah, ça marche pas. Là, même Chachamim qui d'habitude disent, nous on voit les choses seulement extérieurement, il y a des fois que même si extérieurement ça ne se voit pas, on sait que dans une maison, c'est pas vide, il y a des meubles. D'accord, c'est évident. Donc, là, dans ce cas-là, Chachamim seront d'accord. Ça veut dire en d'autres termes, que ce que la Gemara explique, c'est ce qu'on appelle les yeux du cerveau. C'est quoi les yeux du cerveau? C'est-à-dire qu'il y a des choses que on peut pas voir avec nos yeux, mais tu sais très bien que dans une maison, ah oui, on appelle ça les yeux du cerveau, c'est-à-dire ce qu'on peut voir avec notre tête. C'est très bien, dans une maison, il y a des meubles. Par contre, dans la meule, je savais pas que dans ta meule de blé, tu as caché quelque chose.
C'est pas usuel de faire ça.
Pas usuel, ou c'est pas fréquent, ou je m'y attendais pas. Ouais, et là, dans la maison, là, c'est évident qu'on paye tout ce qu'il y a. Ça veut dire que même Rachamim seront d'accord, que quand on met le feu à une maison, étant donné qu'on sait que dans une maison, il y a des meubles, tu payes la maison plus les meubles.
Il peut même avoir un trésor caché, tout ce qu'on veut, c'est chez lui.
Il faut savoir encore une fois qu'à l'époque, il y a une maison qui brûlait, on ne maîtrisait pas, on ne contrôlait pas les incendies. Ça, c'était carrément des villes entières qui brûlaient. Et il n'y a pas besoin d'aller si loin que ça. Il y a des histoires qu'on raconte il y a 200-300 ans dans lesquelles on voit que c'était...
Libourne.
D'accord.
Libourne a complètement brûlé.
Des villes entières qui ont brûlé.
C'était construit en bois.
Bien sûr. Donc, ce qu'est derrière Adam, l'Aniar, Babati. Bon, alors venez, on fait la dernière Mishnah et on s'arrête avec ça. La dernière Mishnah, donc toujours avec le feu. Get Sheyatsa Mitachat Apatish. Alors là, c'est moins criminel. Là, c'est moins criminel, on va plutôt parler des responsabilités liées au feu. C'est pas criminel. Vous allez voir tout de suite pourquoi.
Attends, jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi? D'un accident?
Non. Alors, jusqu'à présent. Là,
ou un crime?
Là, alors, bonne question. La semaine dernière, on a parlé des accidents. On a parlé jusqu'à combien la responsabilité d'un accident peut aller. Bon, ça c'est la semaine dernière. Cette semaine, maintenant, a priori, on ne parle pas d'accident. On parle ici de volontaire. Mais seulement, ce qui va se passer, c'est que la personne ne s'attendait pas à l'ampleur
aux dégâts que l'on provoque.
D'accord. À l'ampleur du feu. C'est a priori, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qui s'est passé en Israël en passant. Enfin, ça ne saura pas. Enfin, ils ont tout fait l'affaire, mais apparemment, ce qu'ils disent, c'est que celui qui a déclaré, il s'attendait, enfin, celui qui a mis le feu, il s'attendait pas à ce
comme
que ça.
Comme tous les pyromanes, d'ailleurs.
Comme tous les pyromanes, exactement. D'accord.
Non, c'est pas tout à fait pareil.
Non, c'est une maladie, oui, ils ont besoin.
Marchemot aussi, Ben Laden, il avait dit dans la cassette après le 11 septembre, je peux vous rappeler. Il avait dit que il s'attendait pas à ce que. Il avait dit
la réaction.
Non, il avait dit qu'il il s'attendait pas que les deux tours allaient tomber comme ça. Juste, il s'attendait à casser un peu, à faire un trou, à faire peur, mais il s'attendait pas que c'est totalement grand. Enfin, il marchait même tout seul. Get Shiyatsa Mitachat Apatish. Alors, c'est quoi Get? Get, c'est un peu de feu, donc une étincelle, d'accord. Get Shiyatsa Mitachat Apatish. Donc, une étincelle qui sort Mitachat Apatish. Donc c'est quoi Patish, d'accord? Patish c'est un marteau, mais c'est pas n'importe quel marteau, d'accord? C'est le marteau d'un forgeron. Donc il y a les étincelles qui sortent.
Travail du fer.
Ouais, il tape du fer sur du fer.
Mmh. Donc il tape du fer sur du fer, mais il y a du feu
donc,
qui sort.
C'est un volontaire total.
C'est?
Un volontaire total.
Ah, c'est clair. Mais justement, c'est pour ça que je dis, là on parle plus, c'est plus criminel, mais par contre on a des responsabilités.
Bien sûr.
Parce que le gars,
prendre des points de disposition.
Ah oui, forgeron, prendre des dispositions. Véhidique. Et il a endommagé. Alors, quel type de dommage? La Gemara nous dit qu'on ne parle pas forcément d'un dommage auquel il pouvait s'y attendre. Ça peut être un dommage inattendu. Par exemple, vous avez l'exemple que la Gemara amène, c'est vous avez un chameau, qui était la voiture de l'époque, quoi, qui va passer avec du lin, et on sait très bien que le lin, ça prend feu très rapidement. Le lin, ça prend feu très rapidement. Donc voilà. Il y a une étincelle qui sort, et l'étincelle... Après, c'est le lin qui a pris feu, le chameau, etc. etc.
Le chameau qui court dans la forêt, d'accord, ou dans le bâtiment d'à côté, et qui brûle.
Véhizik, il est endommagé. Khayav, il est khayav. Alors, pourquoi il est khayav? Il est responsable. Pourquoi il est responsable? Il va dire, mais attendez, moi j'ai pas mis... C'est pas moi qui a mis, j'ai pas mis d'étincelle, moi, sur le chameau. Moi, j'étais chez moi. Il est chez lui, là. Il est chez lui, il est en train de... Bon, c'est un forgeron, mais il est chez lui. Il est khayav? Alors, explique le Maïmonide. Maïmonide explique, ça c'est pas expliqué dans la Gemara, c'est Maïmonide qui explique dans les lois Revel ou Mazik, il dit que c'est considéré, halakhiquement, comme si qu'il a jeté une pierre ou une flèche. C'est trop facile, le gars il jette une flèche, il dit ah ouais, moi je ne sais pas, moi j'ai jeté une flèche et tout, après c'est la flèche, pas moi c'est ma main, hein, c'est la flèche. Ça marche pas comme ça. Tu es forgeron, t'as des responsabilités. Donc même si une fois que l'étincelle a quitté ton domaine, tu ne la maîtrises plus, bah tu la maîtrises plus, c'est tes affaires, mais elle vient de chez toi. Donc, halakhiquement parlant, c'est considéré comme si qu'il avait jeté une pierre ou une flèche. Il est responsable. D'accord. Gamal, Shayataoun, Pishtan. Là, maintenant, on va arriver au cas de Monsieur Bismuth.
Le chameau.
Donc, vous avez... Alors, attention. Il y a un détail que vous n'avez pas dit. Il y a un détail que vous n'avez pas dit. Gamal, Shayataoun, Pishtan. Donc, vous avez un... Là, on va parler d'une responsabilité partagée. C'est-à-dire que la responsabilité n'est pas seulement du forgeron, elle peut être aussi de la du propriétaire, du chameau, d'accord? Tu sais que tu transportes du lin, tu sais que ça s'enflamme très rapidement.
Tu passes pas à côté d'une forgerie.
Ah oui, bon. D'accord? Aujourd'hui, c'est comme les camions, vous savez, les camions citernes, il faut attention.
Il y a des panneaux, il y a écrit.
Il y a des panneaux, c'est écrit, donc il y a une responsabilité partagée. D'accord. Donc, Gamal, ça y est, Taoun Pishtan. Vous avez un chameau qui était Taoun Pishtan, qui était chargé de lin. D'accord? Donc, une matière enflammable très rapidement. Voilà, donc, imaginez-vous un camion citerne. Veava Birchut Arabim. Il passe par le domaine public. Donc pour l'instant, domaine public, bon, il a le droit de passer par là-bas. Venichnessa Pishtano Letor Chanut. Ah. Maintenant, le lin. Vous savez que le lin, par définition, même si on va réussir à le stocker, mais par définition, le lin, ça peut il va s'expandre.
Oui.
D'accord? Donc même si. Tu vas le tasser, mais bon, il peut s'expandre. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, il peut augmenter de volume. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il s'est pas rendu compte de lui qui conduisait l'âne, mais ça c'est pas forcément volontaire. Nirnas Pishtano, le Tachanout. Il y a un morceau de ce lin-là qui est rentré dans le magasin, dans une boutique. Rien à voir avec un forgeron. Dans cette boutique, il y avait une bougie. Pourquoi il y avait une bougie? Ben le gars, il voulait s'éclairer. D'accord? Cette bougie, elle a mis le feu au lin.
Et le magasin a cramé.
Donc, venir les apichtons de l'étang chanout, vedalga benerochekhanfani. Donc, elle s'allume, donc le lin a pris feu à cause de la bougie du commerçant. D'accord? Donc, on dit bien ici, un commerçant, pourquoi on dit khanfani? Khanfani, c'est aussi un épicier. C'est pas forcément qu'on parle d'un épicier, c'est pour dire que c'est un gars qui n'a rien à faire avec du feu. C'est pas un forgeron.
C'était pour s'éclairer.
C'est pour s'éclairer. Veidlik et Tabira. Idlik et Tabira, donc il a mis le feu à la maison. quelle maison, bah, a priori, déjà a commencé par le commerce déjà. Qui est responsable?
Le propriétaire du chameau. Celui qui avait le lin sur son chameau.
Le propriétaire.
Alors, qui est responsable ici?
Bah, disons que c'est une matière inflammable.
Propriétaire du chameau.
Oh, oui, mais attendez. Attention. On va analyser ensemble. Attention, c'est pas si simple.
C'est partagé.
Le chameau, il est où?
Le commerçant.
Il est sur la voie publique.
Est-ce qu'il a le droit d'être sur la voie publique?
Tout à fait.
Mais dit que le lin est sorti de sa...
D'accord.
Il a perdu un coup de son chargement.
Attention.
D'accord.
Imagine un chargement d'essence et qu'il y a une fuite.
J'ai compris. Non, mais attention, il ne faut pas perdre les détails. Chaque détail de la Mishnah est précis ici.
Ouais.
D'accord. Chaque détail est précis. Tout d'abord, le gars ici qui se balade avec des matières enflammables. Il a un chargement. D'accord. Avec du lin. Il sait aussi que le lin, expansion. Même si tu le tasses, il y a forcément une expansion. Donc, il faut faire attention.
Comme du coton, en fait.
Tu le mets dans un carton ou ce que tu veux. Il y a forcément une expansion.
Protégé, quoi,
numéro 2. Numéro 3, d'un autre côté, il est dans le domaine public, donc il a le droit d'être là. Alors, c'est quoi le din? Baal Agamal Khayav. Pourquoi il est responsable? Non, mais attendez, c'est pas si simple, ça.
De son chargement.
Non? Pourquoi il est responsable? Normalement, il a le droit d'être dans le domaine public. Alors, la Gemara explique la chose suivante, quelque chose de très fort. Elle dit, parce qu'on considère que si le lin, c'est répandu, d'accord, enfin, c'est détaché jusqu'au domaine. Il a réussi à arriver jusqu'à la bougie d'un domaine privé. Ouais. Ça veut dire qu'il a trop chargé son chameau.
Ouais. Ou mal chargé, en tout cas.
Non, trop chargé.
Il a pas mis de
filet. Irba Massa Pishtano.
Il a pas mis de filet pour
moi. Non, pas forcément.
C'est comme si tu tortures.
Non, ça veut dire qu'il y a une surcharge. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Ça veut dire que s'il arrive à prouver qu'il n'y avait pas de surcharge.
Ah.
Et qu'il était dans son droit de passer dans le domaine public, il a le droit non seulement de ne pas payer le magasin, mais de dire, monsieur, c'est à vous de mettre votre bougie plus éloignée en sachant que peut-être je peux passer.
Il aurait pu quand même le chargement, le bloquer.
Il n'est pas obligé.
Dans la traduction d'ici, il dit qu'il rentre avec son chameau dans la boutique.
Non.
Donnez-moi un panaché.
Non, venir nas pichetage.
Il y a un chameau chargé de lin. Passe dans la rue et entre dans la rue.
Venichnesa pishtano les torachanou. C'est pas le chameau qui est rentré. C'est le pishtan, c'est le lin qui est rentré. C'est rare. J'ai compris.
C'est une coquille.
Bon, c'est une coquille, c'est pas grave. D'accord. Alors, donc qu'est-ce qu'on a dit? D'accord. Donc, c'est particulier ce qu'on est en train de dire ici. C'est très particulier ce qu'on est en train de dire ici. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné qu'il était dans le domaine public, et qu'il avait le droit de passer par là, c'était au propriétaire, c'était au commerçant de faire attention de ne pas mettre sa bougie trop près.
Moi, je trouve ça un peu...
D'accord?
Litigieux.
Oui, parce que, dans l'Agmara, on considère que quand c'est un domaine public, ça veut dire que forcément, des fois, ça va dépasser un petit peu.
Oui, mais le lin.
Et qu'on peut pas être, on peut pas jouer au fil du rasoir de dire, bon, j'ai mis ici, c'était chez moi. Ça marche pas comme ça. D'accord?
Ouais, ça m'a beaucoup. Bah oui.
Alors, justement, ce qu'explique la Gemara, c'est que c'est rentré dans le domaine privé, certes,
ouais.
D'accord, mais ici on parle d'un cas dans lequel il a vraiment trop chargé, et que c'est parti trop loin. Mais de là on comprend que si ça aurait dépassé d'un petit peu, et que ça aurait pris feu, même si c'est dans le domaine privé, c'est pas responsable. D'accord, ça c'est un grand ridouche, on va dire. Et je finis avec le dernier cas. Inya Khenvani, ça veut dire qu'en d'autres termes, dans la Lara, on considère que on peut pas être trop carré. Ça, c'est ce qu'on est en train de dire.
Ah, c'est ça, d'accord.
Tu peux pas dire, oui, je suis chez moi, j'ai le droit d'allumer une bougie, je fais ce que je veux.
On pense comme ça, on pense carré.
Non, tu peux pas être trop carré.
Bref,
tu sais très bien qu'il y a un domaine public à côté, tu sais très bien que des fois ça peut dépasser un petit peu, et que c'est possible que la personne a chargé son chameau normalement, et que ça dépasse un petit peu. Donc, on peut pas être trop carré. Tu dois faire attention, tu mets pas ta bougie trop près. Même si, théoriquement, tu es dans les droits, on te laisse faire ce que tu veux, pas être trop carré, qu'est-ce qu'il y a? On a ensuite un avis. Il n'y a rien de vani ni romi bachout, rien de vani chayav. Maintenant, on a, puisqu'on vient de Hanouka, donc on va parler des bougies de Hanouka. Si maintenant c'est le commerçant carrément, alors là c'est le comble. Il met sa bougie dehors.
Ah ouais. Hanouka, il faut.
Alors voilà, pourquoi il mettrait la bougie dehors?
D'accord.
Alors, c'est bien. Si c'était une bougie standard, bien sûr qu'il est responsable. Mais par contre, si c'est la bougie de Hanouka, il est pas tour. Pourquoi il est pas tour?
Parce qu'il y a une obligation.
Ah non, écoutez bien. Non, écoutez bien pourquoi. Encore une fois. Puisque celui qui va passer, le propriétaire du chameau, il savait qu'il y a des bougies de Hanouka.
Ah oui.
Donc il devait prendre ça en compte. Mais là, dans un carton ou ce que tu veux.
Donc l'éclairage public, par exemple, de l'époque,
si on en a un,
voilà.
Si on en a un, c'est la même chose.
Bien sûr.
Il sait le bonhomme qui va passer dans une ville où
exactement.
Tous les 5 mètres, il y a une voilà. grosse flamme.
Dans ce cas-là, dans ce cas-là, la ville n'est pas responsable. Puisque tu savais, il fallait tirer. Donc ça veut dire, c'est pour ça que je vous ai dit au début de la Mishnah, si on peut résumer en un mot cette Mishnah, ce qu'on apprend cette Mishnah, c'est quoi ?
Les yeux.
La responsabilité.
Les yeux de...
Que c'est pas parce que je suis chez moi que je fais ce que je veux. D'accord ? Et c'est pas parce que je suis dans le domaine public que je fais ce que je veux. Il y a toujours un concept de responsabilité. Ce qu'on vient de voir ici. Tu vois, c'est Hanouka, tu as allumé. Bon. Celui qui passe, il doit savoir que c'est Hanouka, on fait attention. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a expliqué ? Je suis chez moi, j'ai allumé la bougie, mais c'était juste à côté de, la porte. On dit, écoute, c'est très bien qu'il y a des chameaux qui vont passer et que on peut pas maîtriser. Il y a des choses qu'on maîtrise pas. On maîtrise pas au centimètre près. Donc dans ce cas-là, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable.
C'est un goy, il sait pas que c'est Hanouka.
Ça change pas, tu es dans une ville juive, tu sais que c'est Hanouka.
Mais t'es dans une ville...
Bon, alors encore une fois, après, il faudra adapter
France,
selon
tu
le cas.
C'est le jour de l'an
non,
ou...
C'est impossible.
Ou la
non, c'est un peu...
Noël.
T'as des vivres de Hanouka tous les jours.
La chamelier.
C'est le premier jour.
Et c'est le premier jour.
Ça peut être un arabe.
C'est le premier jour.
Si, ça change. Parce que si le commerçant est un forgeron, dans ce cas-là... Il sait très bien que de son marteau, il va avoir des étincelles qui vont sortir, et donc il y a une responsabilité comme si...
Il doit sécuriser son lieu de travail.
Même si le pichet n'est pas encore dans son magasin. C'est encore plus. Parce que là, dans ce cas-là, hein, étant donné qu'il a des étincelles qui partent de son marteau, explique mais Rambam, c'est comme si il y a des flèches qui sont en train de sortir constamment de son magasin.
C'est comme les mecs qui soudent maintenant.
Ça
marche pas, ouais. Ça lui de verrouiller son feu.
Mais il le reconnaît. Ben,
normal.
Il le reconnaît, c'est égoïste.
Écoutez le rabbin.
Oui, c'est comme ça.
Le professeur Mélez.
Oui.
Conférence à la Sorbonne sur le droit hébraïque. Une fois par mois. Dans le littéraire.
Qui est responsable?
Il va sur le site.
C'est logique.
Il habite derrière la Sorbonne.
C'est ce qu'on a fait dire ici. C'est comme si qu'il envoie des flèches constamment.
Son billet d'avion, il est payé au rabbin.
C'est comme ça qu'un rabbin m'explique.
Malheureusement, 90% de l'économie.